Aloïse Gollet, Croisset, lundi soir, 16 février 1852. J'ai assez bien travaillé cette semaine. J'irai à Paris 5 à 6 jours dans 3 semaines environ, lorsque je serai à un point d'arrêt. Aloïse Gollet, Croisset, dimanche, 2 heures, 22 février 1852. Je t'irai sans doute voir dans une quinzaine. J'ai encore 8 à 10 pages à faire et à en recaler quelques autres avant d'être arrivé à un temps d'arrêt. Après quoi, je me donnerai 5 à 6 jours de vacances. J'ai assez travaillé cette semaine. J'ai bon espoir, pour le moment du moins, quoiqu'il me prenne quelquefois des lassitudes où je suis anéanti. J'ai à peine la force de me tenir sur mon fauteuil dans ces moments-là. N'importe, je voudrais bien que mon roman fût fini et te le lire. Ce sera diamétralement l'antipode de Saint-Antoine, mais je crois que le style en sera d'un art plus profond. Aloïse Gollet, Croisset, lundi soir. Minuit, 1er mars 1852. Je suis en train de raboter quelques pages de mon roman pour m'arrêter à un point, mais ça n'en finit pas. Cette première partie, que j'avais estimée devoir être finie à la fin de janvier, me mènera jusqu'à la fin de mai. Je vais si lentement, quelques lignes par jour et encore. Voilà que je recommence comme du temps de Saint-Antoine. Je ne peux plus dormir. Je n'en éprouve aucune fatigue. Une fois que mon horloge est remontée, elle va longtemps, mais il ne faut pas qu'on l'arrête. Et pour la remonter, c'est avec des cabestans et des machines. Je ne lis rien, sauf un peu de Bossuet le soir dans mon lit. J'ai quitté momentanément tout pour arriver en temps. Je voulais être libre à l'époque que j'avais dite. Aloïse Gollet, Croisset, mercredi, 1 heure de nuit, 3 mars 1852. Je viens de relire pour mon roman plusieurs livres d'enfants. Je suis à moitié fou ce soir de tout ce qui a passé aujourd'hui devant mes yeux. Depuis de vieux keepsakes jusqu'à des récits de naufrages et de flibustiers. J'ai retrouvé des vieilles gravures que j'avais coloriées à 7 et 8 ans et que je n'avais pas revues depuis. Il y a des rochers peints en bleu et des arbres en vert. J'ai rééprouvé devant quelques-unes, un hibernage dans les glaces entre autres, des terreurs que j'avais eues étant petit. Je voudrais je ne sais quoi pour me distraire. J'ai presque peur de me coucher. J'ai lu aujourd'hui 2 volumes de Bouilly. Pauvre humanité, que de bêtises lui sont passées par la cervelle depuis qu'elle existe. Voilà 2 jours que je tâche d'entrer dans des rêves de jeune fille et que je navigue pour cela dans les océans laiteux de la littérature à Castel. Troubadours à toques de velours, à plumes blanches. Fais-moi penser à te parler de cela. Tu peux me donner là-dessus des détails précis qui me manquent. Adieu. À bientôt donc. Aloïse Gollet, Croisset, nuit de samedi, 1 heure, 20 mars 1852. J'ai été d'abord 2 jours sans rien faire. Fort ennuyé, fort désœuvré, très endormi. Puis j'ai remonté mon horloge à tour de bras et ma vie maintenant n'a repris le tic-tac de son balancier. J'ai rempoigné cet éternel grec dont je viendrai à bout dans quelques mois, car je me le suis juré. Et mon roman qui sera fini, Dieu sait quand. Il n'y a rien d'effrayant ni de consolant à la fois comme une œuvre longue devant soi. On a tant de blocs à remuer et de si bonnes heures à passer. Pour le moment, je suis dans les rêves de jeune fille jusqu'au cou. Toute la valeur de mon livre, s'il en a une, sera d'avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire, que je veux fondre dans une analyse narrative. Quand je pense à ce que ça peut être, j'en ai des éblouissements. Mais lorsque je songe ensuite que tant de beauté m'est confiée à moi, j'ai des coliques d'épouvante à fuir me cacher n'importe où. Je travaille comme un mulet depuis 15 longues années. J'ai vécu toute ma vie dans cet entêtement de maniaque, à l'exclusion de mes autres passions que j'enfermais dans des cages et que j'allais voir quelquefois seulement pour me distraire. Oh, si je fais jamais une bonne œuvre, je l'aurais bien gagné. Plût à Dieu que le mot impie de Buffon fût vrai. Je serais sûr d'être un des premiers. À Louise Collet, Croisset, samedi soir, minuit et demi, 27 mars 1852. Tu m'as dit, il y a aujourd'hui 15 jours, sur le pont Royal, en allant dîner, un mot qui m'a fait bien plaisir, à savoir que tu t'apercevais qu'il n'y avait rien de plus faible que de mettre en art ses sentiments personnels. Suis cet axiome pas à pas, ligne par ligne, qu'il soit toujours inébranlable en ta conviction, en disséquant chaque fibre humaine et en cherchant chaque synonyme de mot. Et tu verras comme ton horizon s'agrandira, comme ton instrument ronflera, et quelle sérénité t'emplira. Refoulé à l'horizon, ton cœur l'éclairera du fond au lieu de t'éblouir sur le premier plan. Toi disséminé en tous, tes personnages vivront et au lieu d'une éternelle personnalité déclamatoire qui ne peut même se constituer nettement faute des détails précis qui lui manquent toujours à cause des travestissements qui la déguisent, on verra dans tes œuvres, des foules humaines. Tu t'apercevras bientôt, si tu suis cette voie nouvelle, que tu as acquis tout à coup des siècles de maturité et que tu prendras en pitié l'usage de se chanter soi-même. Cela réussit une fois dans un cri, mais quelque lyrisme qu'est Byron, par exemple, comme Shakespeare l'écrase à côté avec son impersonnalité surhumaine. Est-ce qu'on sait seulement s'il était triste ou gai? L'artiste doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu. Moins je m'en fais une idée et plus il me semble grand. Je ne peux rien me figurer sur la personne d'Homère, de Rabelais, et quand je pense à Michel-Ange, je vois, de dos seulement, un vieillard de stature colossale sculptant la nuit au flambeau. J'ai fini ce soir de barbouiller la première idée de mes rêves de jeune fille. J'en ai pour 15 jours encore à naviguer sur ces lacs bleus. Après quoi, j'irai au bal et passerai ensuite un hiver pluvieux que je clorerai par une grossesse et le tiers de mon livre à peu près sera fait. À Henriette Collier, Croisset, samedi 3 avril 1852. Vous parlez de vos tristesses et de vos longs après-midi pluvieux, et de toutes les souleurs de l'existence. Moi aussi, allez, je sais ce que c'est que le découragement complet de l'âme, les heures mornes et les larmes rentrées. Joignez-y les lassitudes d'un art où je m'acharne et dont je suis épuisé quelquefois, comme on l'est après des excès de vin. À Louise Collet, Croisset, samedi 4h, 3 avril 1852. Je ne sais si c'est le printemps, mais je suis prodigieusement de mauvaise humeur. J'ai les nerfs agacés comme des fils de laiton. Je suis en rage sans savoir de quoi. C'est mon roman peut-être qui en est cause. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Je suis plus lassé que si je roulais des montagnes. J'ai, dans des moments, envie de pleurer. Il faut une volonté surhumaine pour écrire, et je ne suis qu'un homme. Il me semble quelquefois que j'ai besoin de dormir pendant 6 mois de suite. Ah, de quel œil désespéré je les regarde, les sommets de ces montagnes où mon désir voudrait monter. Sais-tu dans 8 jours combien j'aurai fait de pages depuis mon retour de pays ? 20. 20 pages en 1 mois, et en travaillant chaque jour au moins 7 heures. Et la fin de tout cela, le résultat ? Des amertumes, des humiliations internes, rien pour se soutenir que la férocité d'une fantaisie indomptable. Mais je vieillis, et la vie est courte. Ce que tu as remarqué dans la Bretagne est aussi ce que j'aime le mieux. La difficulté de ce livre consistait dans les transitions et à faire un tout d'une foule de choses disparates. Il m'a donné beaucoup de mal. C'est la première chose que j'ai écrite péniblement. Je ne sais où cette difficulté de trouver le mot s'arrêtera. Je ne suis pas un inspiré, tant s'en faut. À Louise Collet, Croisset, jeudi 8 avril 1852. Je ne t'ai point fait de remarques particulières sur le style de ta comédie que je trouve vulgaire. Je sais bien qu'il n'est point aisé de dire proprement les banalités de la vie, et les hystéries d'ennui que j'éprouve en ce moment n'ont pas d'autre cause. C'est même un grand effort que je fais que de t'écrire. Je suis brisé et anéanti de tête et de corps comme après une grande orgie. Hier, j'ai passé 5 heures sur mon divan dans une espèce de torpeur imbécile, sans avoir le cœur de faire un geste, ni l'esprit d'avoir une pensée. N'importe, continuons. J'ai lu Graziella, le malheureux. Quelle belle histoire, il a gâté là. Cet homme, on a beau dire, n'a pas l'instinct du style. Tel est du moins mon avis. Adieu, je t'embrasse. Tâche d'être plus gai que moi. Encore 2 baisers sur tes bons et beaux yeux. À toi. À Louise Collet, Croisset, jeudi, 4h du soir, 15 avril 1852. Le travail remarche un peu. Me voilà à la fin revenu du dérangement que m'a causé mon petit voyage à Paris. Ma vie est si plate qu'un grain de sable la trouble. Il faut que je sois dans une immobilité complète d'existence pour pouvoir écrire. Je pense mieux couché sur le dos et les yeux fermés. Le moindre bruit se répète en moi avec des échos prolongés qui sont longtemps avant de mourir. Et plus je vais, plus cette infirmité se développe. Quelque chose de plus en plus s'épaissit en moi, qui a peine à couler. Quand mon roman sera fini, dans un an, je t'apporterai mon manuscrit complet par curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée j'arrive à faire une phrase. Aloïse Collet, Croisset, samedi soir, 24 avril 1852. Ah, je suis bien content. Ça a été un bon réveil, chère Louise. Et aujourd'hui que j'ai fini mon ouvrage et qu'il est bonheur encore, je m'en vais selon ton désir, bavarder avec toi le plus longtemps possible. Si je n'ai pas répondu plus tôt à ta lettre dolente et découragée, c'est que j'ai été dans un grand accès de travail. Avant-hier, je me suis couché à 5h du matin et hier à 3h. Depuis lundi dernier, j'ai laissé de côté toute autre chose et j'ai exclusivement, toute la semaine, pioché ma Bovary, ennuyé de ne pas avancer. Je suis maintenant arrivé à mon bal, que je commence lundi. J'espère que ça ira mieux. J'ai fait, depuis que tu m'as vu, 25 pages nettes. 25 pages en 6 semaines. Elles ont été dures à rouler. Je les lirai demain à bouillir. Quant à moi, je les ai tellement travaillées, recopiées, changées, maniées, que pour le moment, je n'y vois que du feu. Je crois pourtant qu'elles se tiennent debout. Tu me parles de tes découragements. Si tu pouvais voir les miens. Je ne sais pas comment, quelquefois, les bras ne me tombent pas du corps de fatigue et comment ma tête ne s'en va pas en bouillie. Je mène une vie âpre, déserte de toute joie extérieure et où je n'ai rien pour me soutenir qu'une espèce de rage permanente qui pleure quelquefois d'impuissance, mais qui est continuel. J'aime mon travail d'un amour frénétique et perverti, comme un ascète le silice qui lui gratte le ventre. Quelquefois, quand je me trouve vide, quand l'expression se refuse, quand après avoir griffonné de longues pages, je découvre n'avoir pas fait une phrase, je tombe sur mon divan et j'y reste hébété dans un marais intérieur d'ennui. Je me hais et je m'accuse de cette démence d'orgueil qui me fait haleter après la chimère. Un quart d'heure après, tout est changé. Le cœur me bat de joie. Mercredi dernier, j'ai été obligé de me lever pour aller chercher mon mouchoir de poche. Les larmes me coulaient sur la figure. Je m'étais attendri moi-même en écrivant. Je jouissais délicieusement et de l'émotion de mon idée et de la phrase qui la rendait et de la satisfaction de l'avoir trouvée. Du moins, je crois qu'il y avait de tout cela dans cette émotion où les nerfs, après tout, avaient plus de place que le reste. Il y en a dans cet ordre de plus élevé. Ce sont celles où l'élément sensible n'est pour rien. Elles dépassent alors la vertu en beauté morale, tant elles sont indépendantes de toute personnalité, de toute relation humaine. J'ai entrevu quelquefois, dans mes grands jours de soleil, à la lueur d'un enthousiasme qui faisait frissonner ma peau du talon à la racine des cheveux, un état de l'âme ainsi supérieur à la vie, pour qui la gloire ne serait rien et le bonheur même inutile. Si tout ce qui vous entoure, au lieu de former de sa nature une conjuration permanente pour vous asphyxier dans les bourbiers, vous entretenez au contraire dans un régime sain, qui sait alors s'il n'y aurait pas moyen de retrouver pour l'esthétique ce que le stoïcisme avait inventé pour la morale. L'art grec n'était pas un art, c'était la constitution radicale de tout un peuple, de toute une race, du pays même. Les montagnes y avaient des lignes tout autres et étaient de marbre pour les sculpteurs, etc. Le temps n'est passé du beau. L'humanité, quitte à y revenir, n'en a que faire pour le quart d'heure. Plus il ira, plus l'art sera scientifique, de même que la science deviendra artistique. Tous deux se rejoindront au sommet après s'être séparés à la base. Aucune pensée humaine ne peut prévoir maintenant à quels éblouissants soleils psychiques écloreront les œuvres de l'avenir. En attendant, nous sommes dans un corridor plein d'ombre, nous tâtonnons dans les ténèbres. Nous manquons de levier, la terre nous glisse sous les pieds. Le point d'appui nous fait défaut à tous, littérateurs et écrivailleurs que nous sommes. À quoi ça sert-il? À quel besoin répond ce bavardage? De la foule à nous, aucun lien. Tant pis pour la foule, tant pis pour nous surtout. Mais comme chaque chose a sa raison, et que la fantaisie d'un individu me paraît tout aussi légitime que l'appétit d'un million d'hommes, et qu'elle peut tenir autant de place dans le monde, il faut abstraction faite des choses, et indépendamment de l'humanité qui nous renie, vivre pour sa vocation. Monter dans sa tour d'ivoire, et là, comme une bayadère dans ses parfums, rester seul dans nos rêves. J'ai parfois de grands ennuis, de grands vides, des doutes qui me ricanent à la figure au milieu de mes satisfactions les plus naïves. Eh bien, je n'échangerai tout cela pour rien, parce qu'il me semble, en ma conscience, que j'accomplis mon devoir, que j'obéis à une fatalité supérieure, que je fais le bien, que je suis dans le juste. Causons un peu de Graziella. C'est un ouvrage médiocre, quoique la meilleure chose que Lamartine ait faite en prose. Il y a de jolis détails. Le vieux pêcheur couché sur le dos avec les hirondelles qui rasent ses tempes, Graziella attachant son amulette au lit, travaillant au corail, deux ou trois belles comparaisons de la nature, telles qu'un éclair par intervalle qui ressemble à un clignement d'œil. Voilà à peu près tout. Et d'abord, pour parler clair, la baise-t-il ou ne la baise-t-il pas? Ce ne sont pas des êtres humains, mais des mannequins. Que c'est beau, ces histoires d'amour, où la chose principale est tellement entourée de mystères que l'on ne sait à quoi s'en tenir. L'union sexuelle étant reléguée systématiquement dans l'ombre, comme boire, manger, pisser, etc. Ce parti pris m'agace. Voilà un gaillard qui vit continuellement avec une femme qu'il aime, et qu'il aime, et jamais un désir. Pas un nuage impur ne vient obscurcir ce lac bleuâtre. Ô hypocrite ! S'il avait raconté l'histoire vraie, que c'eût été plus beau ! Mais la vérité demande des mâles plus velus que M. de Lamartine. Je reviens à Graziella. Il y a un paragraphe d'une grande page, tout en infinitif. Se lever matin, etc. L'homme qui adopte de pareilles tournures a l'oreille fausse. Ce n'est pas un écrivain. Jamais de ces vieilles phrases à muscles saillants, cambrés, et dont le talon sonne. J'en conçois pourtant un, moi, un style qui serait beau, que quelqu'un fera à quelques jours, dans 10 ans ou dans 10 siècles, et qui serait rythmé comme le vers, précis comme le langage des sciences, et avec des ondulations, des ronflements de violoncelle, des aigrettes de feu, un style qui vous entrerait dans l'idée comme un coup de stylet, et où votre pensée enfin voguerait sur des surfaces lisses, comme lorsqu'on file dans un canot avec bon vent l'arrière. La prose est née d'hier, voilà ce qu'il faut se dire. Le vers est la forme par excellence des littératures anciennes. Toutes les combinaisons prosodiques ont été faites, mais celle de la prose, tant s'en faut.